si, mais j'avais du mal à le comprendre et je voyais juste comme quelqu'un qui avait de la terre dans ses mains qui s'effritait et qui était toute sèche. Et je veux vraiment encourager aussi, si tu as l'impression que ta vie est trop sèche en ce moment, le Seigneur, il veut vraiment venir avec abondance. Et on déclare ça sur vos vies et tout le verset que Jean-David a lu. Merci Seigneur pour ces moments. Je vous partage quelques annonces quand la lumière sera venue. Exactement, la lumière est là. Merci Seigneur. Alors, quelques annonces. Je rappelle les 10 ans des Églises Connect, le 20 et 21 juin à Gagnères. Et donc, le lien d'inscription est sur le groupe WhatsApp pour ceux qui sont intéressés. On a la joie, le 14 juin, de célébrer 5 baptêmes. Donc ça, c'est un grand sujet de joie. Et la préparation au baptême démarre cet après-midi avec JD et Aurélie. Donc on pourra aussi prier pour eux, on peut penser à eux pour toute cette préparation. Et je veux aussi accueillir les nouvelles personnes. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes parmi nous ce matin. On va vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue. On a un petit cadeau de bienvenue pour vous. Et bien, soyez les bienvenus. Je laisse la main à Joe pour le message. Que le Seigneur te bénisse.
Merci Nico. Bonjour à tous. Et je suis tellement content et honoré de voir ce que Dieu fait dimanche après dimanche dans cette église. Pour ceux qui n'étaient pas là, dimanche dernier, nous avons vécu une conférence sur le cœur du Père. Et j'aimerais donner justement quelques minutes de témoignage spontanément sur ce que vous avez vécu à la conf du cœur du Père David. Tu veux bien venir, je sais qu'il y a David. S'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner de ce que Dieu a fait durant ce week-end, eh ben juste on veut laisser cette opportunité. David, dis-nous tout.
Bonjour à tous. Donc moi j'ai participé le week-end dernier à la conférence Cœur du Père, où j'ai vraiment été profondément touché en plein cœur, en pleine cible, par tous les messages apportés, tous les différents thèmes. Ça parlait de comment on se ressentait, est-ce qu'on se ressentait esclave, comment on se ressentait par rapport à la honte qu'on vivait tous les jours, par rapport au regret, par rapport au pardon, et toute notre vie de chaque jour. Et tous ces regrets, le dernier thème qui a été abordé, c'était un peu un thème bizarre, puisque je ne sais plus son nom, mais il a parlé d'un téléphone, un couple qui avait perdu, une femme qui avait perdu, donc à un aéroport, son téléphone portable. Et puis elle a été retrouvée, le téléphone a été retrouvé, il a été rendu. Et en fin de compte, c'était le thème sur, on avait perdu quelque chose, donc ça peut être un objet, mais pour moi, ça a été ressenti comme avoir perdu un être cher, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai perdu ma femme il y a 14 ans d'une maladie, et le deuil est encore présent dans ma vie, et c'est quelque chose d'assez fort, et j'ai ressenti vraiment la puissance de Dieu, la puissance du Père, qui en fin de compte, malgré toutes les épreuves de la vie par rapport à se sentir donc esclave, par rapport à se sentir honteux, par rapport à avoir des regrets sur notre passé, par rapport à tout ce qu'on aurait voulu faire, qu'on n'a pas fait et qui sont arrivés à ce jour, et ben, le Père est là. Le Père nous pardonne. Le Père nous aide à avancer chaque jour. Ce n'est pas évident à vivre chaque jour, c'est vrai. Hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais le Père est là et répond à chaque chose, mais seulement en son temps. Voilà. Et seulement son temps à lui n'est pas forcément notre temps à nous. On voudrait que ça aille plus vite, mais ça, ce n'est pas nous qui décidons. Voilà. Donc je vous encourage, pour ceux qui n'ont pas pu participer à cette conférence Cœur du Père, moi c'était la première fois que je participais à ça. Les orateurs étaient anglais. On avait un très bon traducteur. Moi, je ne parle pas du tout anglais, je ne comprends rien du tout. Mais je vous encourage vraiment les années futures à venir, parce que c'est vraiment un week-end de ressourcement incroyable. Wow. Voilà.
Mais il prêche, le frère. Oh. Ouais, merci, David. Quelques autres mots de témoignage. Viens, allez, spontanément, célèbre ce que Dieu fait. Est-ce qu'on peut applaudir Estelle? Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé?
Bonjour à tous. Ça fait bizarre de prendre le micro, mais...
Vas-y.
L'accent risque à revenir.
Imagine-les en slip de bain.
Donc moi, je n'ai pas pu participer à la conférence en entier, puisque il était convenu d'un commun accord avec mon mari que ça serait lui cette année. Mais Dieu n'oublie pas et ne laisse personne de côté. Dimanche matin, donc j'assiste au culte, très bien, tout ça. Et puis à la fin du culte, au moment de partir sur le pas de porte, voilà, une grosse douche, mais immense. Béni par voilà par Dieu par ce qu'il fait avec une demande de pardon. Donc la personne est venue me voir et voilà et m'a exprimé voilà tout ce qu'on, le sujet qu'on avait en commun et je veux vraiment honorer cette personne de son acte de foi, d'humilité, de demande de pardon parce que au-delà de tout ça, ça continuait dans la semaine le travail sur moi. Et ça a libéré en fait des traumas que j'avais pu avoir il y a longtemps. Et voilà. Et cette personne, merci, merci à Jésus, merci pour tout. Voilà. Et allez à la conférence, même. voilà.
Wow. Encore un témoignage. Oh, c'est trop bon. Les amis, c'est pour cela que nous faisons des conférences pour qu'il y ait des gens qui viennent découvrir Dieu comme un père. Et ben justement, après toute cette conférence, je me posais la question, mais de quoi je vais parler? Qu'est-ce que je vais prêcher? Et ce que le Seigneur me disait, continue de parler de moi. Continue de parler de l'amour du Père. Continue, vas-y, surfe sur la vague. C'est ce que je veux faire dans vos vies, dans la vie de Connect Grenoble. Les amis, on a échangé avec le groupe de direction de l'église et on veut... Je vous annonce, grande déclaration, flash news, c'est que chaque année, nous allons faire une conférence du cœur du Père. À la même date, au mois d'avril, on veut planter comme un pilier dans la culture de cette église. J'ai contacté tous les Anglais, les Samuel Olivier, le collectif. Ils ont tellement été bénis et touchés de voir ce que Dieu fait là. Ils m'ont dit, Jo, tu nous appelles, on bloque la date, on revient quand tu veux. Et ce que le Seigneur me montrait aussi, je l'ai vraiment reçu en vision, c'est comme si il y avait à l'avoir un épicentre de ce que Dieu voulait faire. C'est comme s'il y a plein de fils, de filles qui viennent autour de l'amour du Père, qui découvrent l'amour du Père. Et c'est comme si ça, il y a un cercle, ça s'élargit encore plus. Et je sentais que c'est comme s'il y a un sillon qu'on va creuser année après année sur l'amour du Père. Et il y a quelque chose qui va se produire, on va impacter cette ville, j'en suis convaincu. Donc, prions, Seigneur, on t'accueille. On veut juste accueillir ton amour, Saint-Esprit, ce que tu es en train de faire. On veut ouvrir l'espace de nos cœurs. Viens, s'il te plaît, Seigneur, donne tes paroles. On veut être des petits-enfants, petites filles, petits garçons, dans les bras d'un grand papa. Et je te prie de m'aider, Seigneur, à communiquer ton amour, cet amour du Père qui est bon. En ton nom, Père, j'ai prié. Amen. Si je devais donner un titre à cette pensée ce matin, c'est plutôt une pensée, c'est juste une nouvelle extraordinaire que découvrir qu'on est aimé de Dieu. Si je fais un petit sondage comme ça dans l'église, combien ont eu une bonne relation avec leur Père? Levez la main. Ok. Combien ont eu une relation moyenne? Combien ne l'ont pas connu? Ok. Combien la relation n'était pas bonne? Ouais, comme quoi, vous voyez, il n'y a plus... Et en fait, c'est fou de voir que, selon toutes les variations d'histoire humaine qui composent cette salle, l'amour de Dieu veut se dépeindre et se rencontrer à vous tout à nouveau comme un père. Voici Éphésiens, prochaine diapo. On démarre avec ce texte. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui, tous, sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde. Là, il est question de Dieu. Avant même qu'il ait posé les fondations du monde, avant qu'il ait créé le monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints, sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son Fils bien-aimé. Oh ! Les amis, vous avez une carte d'identité. Si je prends votre pièce d'identité, il y a votre nom de naissance. Pour certains, un deuxième nom. Il y a une attestation de la maternité qui dit que tu es né à La Tronche le 14 juillet 1970. Tu vois ? Mais ce texte-là nous dit qu'avant la fondation du monde, avant que vous veniez sur cette terre, vous avez été pensé, créé dans le cœur de Dieu le Père. Et j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans cette pensée-là. C'est que Dieu souhaitait, vous a pensé, vous a rêvé avant même la fondation du monde. Et en fait, c'était libre, c'était pas imposé. Et on peut, en fait, ce que je m'aperçois, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire plein de choses sans le découvrir. On peut faire plein de choses sans être en connexion ou relation avec Dieu comme un père. Et le rêve de Dieu, c'est qu'on puisse découvrir ou redécouvrir cette intimité avec lui. Et c'est A.W. Tozer qui disait ce texte, prochaine diapo, « La chose la plus importante à ton sujet, et il parle de Dieu, il parle de vous, excusez-moi, sont les premières images, les premières impressions que vous avez quand vous pensez à Dieu. Donc, si je vous dis, attention, Dieu, c'est quoi la première impression qui vous vient ? Parfois, il y a des gens qui vont dire, ben, Dieu, il est saint. C'est vrai, il est saint. Nous, on est pécheurs. Je ne peux pas m'approcher de Dieu comme je suis. Et ça, c'était vrai avant la croix. Depuis, on a accepté Jésus dans nos vies. Et Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs. Il nous voit au travers de Jésus. Ça, on le connaît pour certaines personnes. Je sais qu'il y a des nouveaux qui viennent ici et qui n'ont pas de culture chrétienne. Il y a des gens... du coup, j'essaye d'à la fois... enseigner des choses à des nouveaux convertis comme Aurel ici, Victor, et puis il y a peut-être des gens qui, ça fait depuis 30 ans que vous connaissez toutes ces histoires, mais en tout cas, c'est bien de revenir aux fondamentaux. Et du coup, Dieu, pour vous, il est comment ? Il y a beaucoup de personnes qui le voient comme un roi. C'est la définition que vous allez avoir. Dieu, c'est un roi, il règne, c'est génial, waouh ! Dieu, il est amour. Dieu, il est fidèle. Et puis, il y a des gens... Selon l'environnement dans lequel vous vous êtes construit dans votre vie chrétienne, vous allez peut-être voir, et c'est très souvent comme ça qu'on le voit, comme un juge. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir Dieu comme un juge ? J'ai fait quelque chose de mal, je m'en veux, j'ose pas revenir vers lui, parce que j'ai peur, il va me juger. Vrai ou pas vrai ? On ressent ces choses-là. Et du coup, en fait, les paradoxes, c'est que Dieu est, il est à la fois roi, saint, mais c'est aussi un juge, mais c'est un avocat. Il est fidèle, il est jaloux de l'amour qu'il a mis entre nous, qu'il a mis à l'intérieur de nous. Et en fait, il est tellement grand que l'univers ne peut pas le contenir, mais il désire aussi habiter notre cœur. Du coup, si je reviens à l'image qu'on a eue tout à l'heure, c'est que vous êtes né ici dans une maternité, dans votre livret de famille. Vous êtes la fusion d'une relation de deux êtres aimés ou pas. Et un jour, boum, vous voilà arrivé sur cette terre, à la maternité. Et vous êtes arrivé. Et l'intention de votre Père céleste, c'était de vous placer momentanément dans une famille d'accueil sur terre qui prenne soin de vous et qui, peut-être accessoirement, vous amène à le découvrir, ou du moins le représente sur terre. Vous êtes là ? Est-ce que vos parents ont bien représenté Dieu ? Est-ce qu'ils l'ont mal représenté ? Seul vous pouvez répondre à la question. Mais en tout cas, son souhait, c'était que dans la famille où Dieu vous a placé, vous puissiez recevoir tendresse, amour, tout ce que vous avez besoin pour vous construire. Et du coup, est-ce que ce père terrestre a rempli son rôle d'un bon père ou pas ? Est-ce qu'on vous a vraiment dépeint ? Est-ce qu'on vous a dit que vous aviez un autre père dans le ciel ? Moi, ma fille Chloé, je lui dis, Chloé, ma chérie, t'as deux papas. T'as papa Joe, moi, mais t'as un autre papa qui est dans le ciel. Et vous pouvez lui dire, je lui enseigne depuis le début, elle a deux pères. Donc les amis, j'ai une nouvelle qui risque un peu de vous traumatiser. Je sais que ça va vous choquer, mais c'est vrai. En fait, je vous le dis comme ça. Vos parents ne sont pas vraiment vos parents. Le scénario, tu sais, où j'ai été adopté, mes parents ne sont pas mes vrais parents, tu sais, il y a toujours ce choc-là. En fait, j'aimerais vous dire, il y a un peu de ça quand même. Vos parents sur Terre sont vos parents terrestres, mais ce n'est pas vraiment, vraiment vos parents. Il y a un Père dans les cieux qui vous a voulu avant vos parents sur Terre. Est-ce que vous voulez le rencontrer ? Est-ce que vous voulez le rencontrer ? Jérémy, Sonia, David, Aurel, Concedao, Zaza. Vous lui diriez quoi ? Salut, bonjour, ce serait peut-être bien qu'on fasse connaissance. On ne s'est pas vraiment parlé depuis... on ne s'est jamais vraiment parlé. C'est mon père. Mais c'est un truc de dingue. Dieu est vraiment notre père. Et que ressentez-vous ? De la frustration, de la colère ? J'ai des questions à te poser. Est-ce que vous vous sentez gêné ? Est-ce que vous avez envie de dire pourquoi ? Pourquoi toute cette souffrance ? Pourquoi tout ce que... Et puis, la famille dans laquelle tu m'as mis, t'aurais pu faire mieux. Hein. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? En tout cas, la seule chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il est désireux de vous rencontrer sous les traits de ce père. Et parfois, l'environnement dans lequel on a grandi n'a pas toujours dépeint Dieu comme un père. Moi, j'ai grandi dans une famille qui était merveilleuse, remplie d'amour, mais il y avait un grand-père qui nous a enseigné, qui lui-même avait souffert du manque d'amour de son papa. Et il y a toute cette conception que nous avions alors, de l'église que nous étions alors, où on ne voyait pas Dieu comme un père. Papa, maman, vrai ou pas vrai ? On ne voyait pas Dieu comme un papa. Un juge, oui, ça, mais un papa, non. Et en fait, toute notre vie chrétienne, notre communauté chrétienne, dans toutes nos relations, on était imprégné de Dieu comme il est saint. Et on avait peur de Dieu, on ne s'approchait pas de Dieu, vous comprenez ? Et moi, tout petit, je me rappelle, j'ai essayé d'impressionner les gens au-dessus de moi, de mon entourage, impressionner mon papa, impressionner mon grand-père, impressionner les gens. Alors au début, quand j'étais enfant, je faisais plein de bêtises. Puis des bêtises, ça s'est transformé, des bêtises mais hallucinantes. Des bêtises, et là, mon frère, il a plein de dossiers, mais je le paye pour pas qu'il sorte les dossiers de tout ce qu'on a fait quand on était enfant, mais des bêtises, mais lunaires, que même pas mes enfants font. Mais il y avait une partie de « Regardez-moi, j'existe. Regardez-moi, s'il vous plaît, dites-moi que je suis un bon petit gars. » Et dans notre église à l'époque, il y avait surtout cette dimension de ne pas glorifier la chair. Je vous explique le concept. Aurel, tu comprends. Parce que, Aurel, en fait, le délire, c'est que quand tu fais quelque chose de bon, c'est pas toi qui le fais, c'est Dieu qui le fait. Du coup, quelqu'un pouvait faire un super bon truc et on ne disait jamais « c'est bien ce que tu as fait ». Tu vois. On dit « non, c'est pas toi, c'est le Seigneur ». Tu vois, il y a tout ça. Combien on grandit dans ces types d'églises-là ? Ouais, c'est bon. On n'était pas les seuls, maman, papa. Manifestement, il y en avait d'autres. Et du coup, moi, ça a développé chez moi une espèce de, peut-être narcissisme aigu, où j'étais imbu de moi-même, orgueilleux, parce que je me dis, ben tiens, les gens, ils ne veulent pas me voir, ils ne veulent pas m'avoir ma vraie valeur, et ben je vais essayer de trop en faire, toujours impressionner. Mais dans mon cœur, il n'y avait qu'une seule envie, c'est d'être aimé. Dites-moi que vous m'aimez, dites-moi. Et j'ai essayé de faire plein de choses, admirables, même très très bien, mais pour qu'on m'aime. Et puis je suis parti en école publique, et j'ai découvert des Canadiens. Et eux, les Canadiens, ils ne sont pas du tout dans la mentalité française. Eux, ils sont dans l'ultra-encouragement, tu vois. Quand tu fais quelque chose, waouh, c'était bon, avec l'accent canadien, c'était écœurant. En fait, eux, ils disent, pour dire que c'était bon, c'était écœurant, tu vois. C'était écœurant, c'était vraiment bon. Et quand t'as prêché, j'ai ressenti la présence de Dieu. Et les gens pleuraient. Et moi, je me rappelle, la première fois que j'ai prêché devant 400, 500 personnes, les gens ont applaudi. Et dans mon petit cœur d'orphelin, sans l'amour du Père, je dis, waouh, c'est tellement bon, les gens m'aiment. Et je dis, Seigneur, c'est un business qui marche. Toute ma vie, je veux être pasteur. Eux, ils aiment ça. Moi, j'aime ça. C'est un business qui marche. On partage la gloire. Un petit peu pour toi, beaucoup pour moi. Et je me rappelle le premier soir que j'ai prêché. C'était prophétique, je crois. J'avais prêché, vous savez, ce texte de Jérémie qui dit « Que peut devenir une masse de boue ?» Et c'est une question que Dieu pose à son peuple. Il dit, il envoie Jérémie, il parle de son peuple. Il dit, Jérémie est un prophète, il l'envoie chez un potier qui était en train de faire avec de l'argile, un vase. Et alors qu'il voit cette scène-là, Dieu lui parle et lui dit, est-ce que moi je ne peux pas agir dans ta vie comme ce potier en train de faire ça avec cette masse d'argile ? Et tout mon message de ce fameux soir, c'était ça. Et puis je le prêchais, je dis, Dieu veut changer nos vies. Mais quelque part, alors que je prêchais ça, j'essayais de me convaincre moi-même et de me changer moi-même. Enfin, tu vois, je disais, et tu vois, on est cette masse debout que Dieu veut changer, que Dieu veut travailler. Et c'est beau ce que Dieu fait dans nos vies. Et puis les gens étaient touchés, etc. Et à la fin de la réunion, j'ai eu une montagne d'amour, de compliments, de tout ce que j'ai manqué durant toute mon enfance, tu vois, parce que le contexte d'église. Et vous savez quoi ? C'était bon. J'ai aimé ça. C'est comme si toute ma vie, j'avais voulu du chocolat, et là, c'était l'usine à chocolat. J'en ai fait une indigestion. Et le soir, en rentrant à la maison, hop là, mets une pause. Juste le matin, je rencontrais un pasteur. Et là-bas, tu avais des pasteurs qui rencontraient des jeunes étudiants d'école biblique. Et le pasteur, je lui décrivais tout l'environnement dans lequel on avait grandi avec papa, maman et l'église de l'époque, etc. etc. Et à un moment donné, je lui dis, mais tu sais, moi, j'aurais voulu qu'on me regarde, j'aurais voulu qu'on me dise que ce que je faisais, c'était bien, etc. etc. Et il m'a dit cette question-là. Je l'ai regardé sur mon journal intime. Il m'a dit, OK, peut-être qu'on ne t'a pas donné ça, mais est-ce que l'idée de croire que Jésus lui te voyait, ça te suffirait? Tu peux répéter la question? Est-ce que, ok, tu voulais ça des gens, mais est-ce que l'idée de croire que Dieu lui te voyait, est-ce que ça te suffirait pour guérir et continuer le chemin? Et je lui dis, écoute, je ne sais pas, il va falloir que je réfléchisse. Et je lui ai dit, il va falloir qu'il me le dise. Et puis on est parti, et puis j'ai prêché, et le soir, la réunion, tout le monde part, et puis vous savez, les réunions, ça se termine, etc. Et puis il était minuit, je rentrais à la maison. Et sur le chemin, j'ai entendu Dieu me dire ce verset biblique, « Quand tu n'étais qu'une masse informe et vide, mes yeux te voyaient. » C'est-à-dire que quand j'étais personne, eh ben c'est comme si Dieu voyait cette masse d'argile brute et dit, wow, « je vais faire quelque chose avec ta vie. » Je vais en faire un chef-d'œuvre. C'est mon histoire, mais Dieu regarde également à votre histoire, à la masse debout que vous êtes, peut-être informe, difforme, et Dieu dit, voilà, j'ai un plan pour toi. Ça parle à quelqu'un ? Prochaine diapo. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien Dites avec moi, toute chose. Toute chose, c'est... Moi, j'ai étudié le grec un petit peu. Ça veut dire toute chose. Même les pires. Les choses qui m'ont fait du mal. Mais non, tu devrais... Moi, je trouve qu'il y a une erreur. Dieu fait courir les bonnes choses. Non, mais en fait, toute chose. Pour ceux qui l'aiment, ceux qu'il a appelés conformément à son plan divin, Dieu, il vous a connu d'avance. Écoutez, il vous a destiné, Aurel, avant même que tu viennes. Dieu t'avait destiné d'avance à devenir conforme à l'image de Jésus, son fils, afin, et c'est là le scoop, attention, afin que Jésus soit l'aîné de multitudes de nombreux frères et sœurs. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez un père, enfin, vous avez des parents biologiques ici, terrestres. Vous avez un véritable papa dans le ciel. Et j'ai oublié de vous dire, et je sais que ça va faire beaucoup d'émotions pour aujourd'hui, mais vous avez également un frère. Un autre frère que vos frères et sœurs, moi, Jérémy et tout. Il y a un autre frère qui s'appelle Jésus. Et lui, il est envoyé du Père pour vous faire les présentations de son Père céleste. Il vous conduit au Père. Il nous amène, il veut, genre, viens, et lui, il trépigne d'impatience, il aimerait vous rencontrer. Et en fait, Jésus, c'est la meilleure personne pour nous parler de l'amour du Père. Il nous parle du Père, il nous a inculqué, il nous a éduqué. L'histoire du fils prodigue dans Luc 15, vous pouvez la regarder à nouveau. Et en fait, même il y a des textes qui sont bouleversants. Vous vous rappelez quand il est dit que, et moi ça me bouleverse à chaque fois que je le vois, que Jésus n'a pas voulu garder l'exclusivité d'être égal à sa place de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant serviteur jusqu'à la croix dans la mort. C'est tellement extraordinaire. Et Jésus, il a fait ça pour toi, pour moi, pour qu'on puisse appeler Dieu le Père, Papa. Et du coup, on peut passer toute notre vie chrétienne à côté de ça. Vous imaginez un peu le choc ? Vous avez quelqu'un dans le ciel qui vous aime, c'est votre papa. Et il dit Jésus, c'est le premier-né d'une multitude de frères et de sœurs. Et vous êtes là. Hier, j'étais à une conférence sur le cœur du Père. Et puis, j'ai invité un gars qui s'appelle David Bonnet au restaurant. Et puis, on discutait et il me présentait sa fiancée. Et puis sa fiancée, je lui parle, mais comment t'as découvert l'Église et comment... Elle dit, moi, je viens d'un arrière-plan. Mon père était, il est catholique, non pratiquant. Mais je lui dis, papa, est-ce que t'as rencontré Jésus? Et le père lui dit, ben non, je sais pas de quoi tu me parles. Et elle me dit, il connaît tous les passages bibliques par cœur, mais elle me dit, en fait, il connaît pas Dieu. Et elle dit, ben moi, je me suis approchée de la foi chrétienne. Elle avait plusieurs hommes dans sa vie. C'est une très, très belle dame, éloquente, très belle dame, et puis très, très bien éduquée, etc. Et elle dit, elle vit à Monaco. Tu vois, Monaco, je vous laisse imaginer. Et elle dit, on était dans une belle famille comme ça, très éduquée. Mais elle dit, on ne connaissait pas Dieu, même pas Dieu. Et elle dit, quand j'ai commencé à découvrir la Bible, elle dit, c'était tellement gros et lourd pour moi. Elle me disait, je regardais juste des dessins animés, ce qui soit un peu plus accessible pour moi, tu vois. Et elle a commencé à découvrir très rapidement que Dieu était son père. Parce que son fiancé connaît bien Dieu comme un père. Il fait des conférences sur cette thématique. Et très rapidement, dans les 6 mois de sa vie chrétienne, elle a dit, ok, j'ai téléchargé, Dieu c'est mon père. Et elle a commencé à vivre des guérisons intérieures, des nettoyages de fous furieux. Elle dit, je pleurais dans ma chambre. Elle dit, mais c'est vrai, c'est vrai. Elle dit, j'ai un père dans le ciel. Il y a toute cette filiation. Elle buvait l'amour de Dieu. Elle dit, j'étais dans ma chambre, je buvais comme... Et elle te raconte ça, mais tu sais, t'es émue. Les yeux étaient humides. Et un jour, elle me dit, je rentre à la maison et je vais voir mon père et je lui partage tout ce qu'on vit. Et là, le père, il prend peur. Non, elle l'a vu au téléphone, excuse-moi, elle commence à lui partager. Et puis, tu sais, vous l'avez vécu, le zèle du nouveau croyant, tu viens de rencontrer l'amour de Dieu, tu as envie de le partager parfois maladroitement. Et elle commence à lui bombarder, papa, c'est extraordinaire, faut que tu rencontres Dieu comme un père. Et le père, à ce moment-là, il a tellement eu peur, il la blaste, il la casse, il la dénigre au téléphone. Et elle est comme ça. Et elle se fait bombarder. Et elle raccroche et elle dit à son fiancé, j'ai pas appelé le bon père. Et elle me raconte ça au restaurant. Et elle me dit, dès lors, mon père céleste est devenu à nouveau mon vrai papa sur terre. Et elle dit, j'essaye de dire à mon papa qu'il a un papa dans les cieux. Est-ce que vous me suivez ? Waouh ! Et du coup, en fait, il y a cette invitation à nous faire ce chemin-là. Parce que personne d'autre ne fera le chemin à ta place. David, Annie, Claire, Manuel, Teresa, personne ne peut avancer vers les bras du Père à ta place. Jésus est venu, il nous a montré le chemin, mais chacun individuellement, à moins que nous allions le rencontrer, à moins que nous allions dans ses bras, et que vous vivez cette filiation, ça ne se passera pas. En fait, l'amour du Père ne s'impose pas. Ce serait dramatique de l'imposer. Juste, il est proposé. Donc, si vous souhaitez pas le rencontrer, bah, il respectera votre choix, avec toutes les conséquences que ça engendrera pour vous deux. Vous continuerez comme un orphelin à vagabonder parmi les champs et les forêts, sans jamais rencontrer Dieu comme un père. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça, les amis ? Parce que il y a beaucoup de leaders d'église, beaucoup de pasteurs, vas-y mon chéri, beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders, où on fait des choses pour Dieu en étant complètement absent de l'idée que c'est un père pour moi. Je me rappelle, il y a des gens qui l'ont connu. Je vois Serge, je vois Saïd ce matin. C'était Pierre Truchel, c'était un pasteur très influent ici dans la région. Et j'ai eu la chance de le voir 24 heures avant sa mort. Plus personne devait aller le voir à l'hôpital. Et je me rappelle que je me suis faufilé là, je suis arrivé là. J'avais 18 ans, 19 ans, et le lendemain, il était mort. Et alors que je viens dans la chambre d'hôpital, il y a une chose qu'il m'avait dit. Il m'a dit, bon, allez, tiens, donne-moi la main, je vais prier pour toi. Et il m'a dit juste un truc qui m'a marqué des années plus tard. J'ai 40 ans, ça s'est passé, j'avais 18 ans, 42 ans, 43 ans. Bon, et il m'a dit, n'oublie jamais que tu es un fils aimé du Père. Et il m'a dit ces mots-là, je m'en rappelle des années. Il m'a dit, plus tu développes la vérité que tu es aimé du Père, plus tu seras un chrétien fort. Et il est mort le lendemain. Jamais j'ai oublié ces mots-là. Et peut-être c'était prémonitoire, prophétique, mais il y a cette dimension où un jour Dieu est venu me rencontrer comme un père. Allez, j'avance. Point numéro 2, Dieu, il a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Mets un coup de coude à ton voisin, dis-lui, c'est de toi qu'il parle. La Bible nous dit, prochaine diapo, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés, attention, en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que... Ok, on va le remettre. Ce texte nous dit que tu as été créé... En fait, Dieu s'est levé... Écoutez, j'aime bien cette image-là, un artisan. Dieu s'est levé un matin... Pendant qu'il était en train de prendre son café, et tu vois, il a eu une émotion qui lui est passée, et il a dit, j'ai un rêve. Et puis il allait sur son établi, et il a dit, je vais faire quelque chose. Et puis il a créé quelqu'un, et pouh, il a créé Jamel. Wouhou ! Et puis il a créé Pina. Et puis il a créé Benjamin. Et puis il a créé Jules et Jean-Noël. Et bon, vous avez compris que Dieu rêve souvent. Il a voulu matérialiser quelque chose de sa personne quand il vous a créé. Donc vous n'êtes pas une erreur. Il vous a voulu comme vous êtes, avec vos défauts et avec vos qualités. Combien on est défauts ? Combien n'ont pas de défauts ? Merci, Michael, je le savais. Toi et moi, nous sommes l'Église. Donc, il vous a façonné avec un plan, avec un projet, avec une destinée pour votre vie. Et du coup, toute la vie chrétienne, c'est de découvrir le plan et l'intention que Dieu avait voulu quand il vous a placé sur terre. Et vous pouvez pédaler sur un petit vélo à côté de votre vie sans jamais réaliser l'amour de Dieu le Père, ni son plan, ni son intention. Il a dit, ce texte-là le dit, il nous a créés en Jésus avec un plan, avec une destinée. Il avait un but. Vous êtes là ? Le problème, c'est que nous, on apprécie beaucoup notre destinée en fonction des autres. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis, dit la reine dans Blanche-Neige à son miroir. Et en fait, souvent, on construit notre destinée, et c'est comme ça, par rapport à ce que les autres disent de nous. Est-ce que vous dites que je suis une bonne personne ? Alors la moitié de la salle penseront que oui, peut-être d'autres moins bien, peut-être des fois oui, des fois non, il est un peu change, hein, vous comprenez ? Et du coup, en fait, c'est comme si je me construis vis-à-vis de ce que les autres pensent de moi, mais pas vis-à-vis de ce que Dieu pense de moi. Vous êtes là ?
Oui.
Du coup, on essaye de faire des choses pour impressionner les autres, et tu t'aperçois que les autres ne sont jamais satisfaits et on ne plaira jamais à tout le monde. Et du coup, on court après quelque chose qui n'arrive jamais. Donc, j'aimerais vous dire, change de miroir. Arrête de te regarder dans le miroir des gens, même au travers même de vos parents. Vous savez, les parents, souvent, ils voient dans leurs enfants une bonne carrière. Mon fils, tu seras ce que j'ai jamais réussi à avoir. Tu seras médecin, tu seras ceci, tu seras cela. Bon, et c'est comme si parfois on projette les intentions sur nos enfants, où on a mis en nous, on a calqué une destinée, quelque chose, mais que Dieu ne voulait pas. Et tout le chemin de la vie chrétienne, c'est de réaliser ce que Dieu veut pour vous réellement. Vous êtes là ? Du coup, l'intention de celui qui vous a désiré, l'architecte qui vous a voulu, qui vous a pensé, qui vous a créé pour un but, vous êtes né avec une intention divine. Et quand il dit « nous sommes créés », c'est son ouvrage, et littéralement, pour avoir fait une petite étude de texte, l'ouvrage dont il est question, c'est un chef-d'œuvre. Dieu est un peu artiste. Il a créé un chef-d'œuvre et le texte, c'est poéma. C'est littéralement Dieu, quand il vous a créé, il a fait un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Tac, tac, tac. Il s'est éclaté et vous voilà avec toute la complexité de qui vous êtes. Et c'est un peu comme un tableau. Si vous étiez un tableau, il est question d'un ouvrage, d'une œuvre d'art. Il y a des gens qui vont dire « Moi, je suis le plus beau tableau parce que je suis l'expression la plus parfaite de mon créateur. » Mais il y a un autre tableau qui est juste à côté et dit « Non, moi, j'ai plus de valeur que toi parce que je suis plus vieux. » Et les gens me mitraillent de photos et ils posent devant moi pour des selfies. Et puis, il y en a un autre qui va venir et va dire « Non, c'est moi le meilleur tableau. » Mais pourquoi ? Il dit « Parce que moi, je suis plus grand. » Voilà, j'ai des dimensions hors normes, etc. Et puis en fait, souvent l'Église, c'est comme l'humanité, c'est ces espèces de galeries, de tableaux d'art. Et personne ne connaît vraiment sa valeur. Puis il y a les gens qui viennent et disent « Moi j'aime mieux celui-là, moi j'aime mieux celui-là. » Puis il y a celui-là qui est mieux coté aux enchères. Mais personne ne connaît vraiment la valeur d'un tableau, si ce n'est le créateur qui les a fait. Et puis du coup, il y a une discussion, je sais c'est un peu imaginaire ce que je suis en train de dire, mais bon, venez avec moi, il y a des badauds qui passent, il y a des touristes, et puis les tableaux, ils se disent, mais comment se disent les tableaux l'un aux autres ? Comment est-ce qu'on a pu devenir des tableaux ? Tu vois, ils se posent des questions, l'un d'entre eux. Puis il y a un autre tableau qui dit, ben moi j'ai écouté un touriste la semaine dernière, il a dit qu'on était le fruit du hasard. Ah bon ? Ah ouais, ouais, mais puis l'autre tableau, il répond, il dit, mais comment on est le fruit du hasard ? Imagine toutes ces perspectives, ces couleurs qu'on a. Il dit, ouais, mais t'inquiète, tu vas évoluer dans 15 milliards d'années. Et puis quelqu'un un jour déclare, quelqu'un découvre tout au fond du tableau, tout en bas, il y a une signature de son créateur. C'est Dieu qui vous a peint. Vous êtes le fruit de sa volonté. Imaginez, pensez, désirez, désirez. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin de cette véritable manifestation de l'amour du Père. Qu'on pense qu'on a été voulu, créé pour une bonne œuvre, pour quelque chose. Que ce soit clair dans nos cœurs. Allez, j'avance. Et j'aimerais, pour terminer, pour tous ceux à qui peut-être ça a été compliqué avec votre papa ou votre maman ou votre grand-père ou que sais-je, ou on va dire les autorités paternelles que vous avez eues, prochaine diapo, je vais vous inviter, et c'est une des pensées que j'avais, c'est de rendre le rôle du Père, de redonner à Dieu la paternité. On lit ensemble. Regardez ce texte. On voit un fils ici, l'image elle était tellement parlante, je l'ai trouvée sur internet, je l'ai trouvée géniale. Ici, c'est le fils prodigue qui dit, alors il alla se faire embaucher, pour les gens peut-être qui ne connaissent pas l'histoire, pour vous le faire très simple, c'est Dieu veut, c'était Jésus sur terre il y a 2000 ans qui voulait exprimer comment Dieu était un père à l'égard de ses enfants, et il démarre une histoire dans Luc 15 avec un homme avait deux fils. Et il y a un premier fils qui va dire, il va prendre l'héritage de son père, il va fuir la maison du père, il va dilapider toute sa fortune. Et à un moment donné, il est dans un pays où il commence à manquer de tout, il y a une famine, et il y a un maître de la porcherie qui vient, qui le prend et qui le fait travailler pour lui. Et je te fais l'histoire longue, simple, mais au fur et à mesure, il est rentré libre, mais il va être complètement exploité et rendu esclave. Et à la fin, voilà ce qui se passe, il alla se faire embauché par le propriétaire de la contrée, celui-ci l'envoyait dans les champs pour garder les porcs, et le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec la nourriture que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. En fait, il est exploité, il ne peut même plus manger la nourriture des cochons qu'il élève. Vous vous rendez compte ? Alors il se dit en lui-même, tous les ouvriers chez mon père, ils peuvent manger autant qu'ils le veulent, alors comment ici je suis en train de mourir de faim ? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré, d'être accepté comme ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et si tu mets la prochaine diapo, et regardez cette photo comme elle est belle. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Et comme il se trouvait encore une bonne distance de la maison, son père l'aperçut. Il fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à sa rencontre, à la rencontre de son fils. Il se jeta à son cou et l'embrassa longuement et tendrement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais son père lui dit, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouvez, mettez-le lui. Passez-lui une bague autour du doigt, chaussez-lui des nouvelles sandales. Amenez le veau qu'on a engraissé, tuons-le, mangeons et réjouissons-nous, faisons un grand festin, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Cette histoire que Jésus nous partage ici capture le cœur même du Père pour nous, ses enfants. Et il y a tellement, tellement de choses à dire ici, mais mon point est le suivant, je vais juste prendre une facette de ça, c'est que ce fils prodigue, il est là, il réalise qu'il a tout foiré les intentions de son père. Et là, c'est Dieu le Père dans l'histoire. Il réalise qu'il a planté sa vie, il réalise qu'il a tout foiré. Il s'est mal comporté, il a renié son père, il l'a insulté. Et là, il réalise qu'il est exploité il est complètement exploité, il est lié, il est esclave de l'endroit où il est. Et il dit, chez mon père, c'était pas comme ça. Et il va prendre une décision qui va lui sauver la vie. Il va dire, je retourne chez papa. Mais dans son cœur, il y a une espèce de deal qui se produit. Il réfléchit, il est intelligent. Et il se dit, je ne peux pas retourner chez papa comme je suis. Je veux dire, avant j'étais un fils. Mais maintenant j'ai foiré. Donc je ne peux pas me présenter devant papa comme si de rien n'était. Donc il échafaude un plan. En disant, ben, quand je vais aller le voir, ben, je lui dirai, papa, tu avais un plan A pour ma vie, qui était que je sois un fils modèle, avec un héritage, tout ça, je l'ai foiré. Je te propose un plan B. Je te propose que tu me traites comme l'un de tes serviteurs. Et souvent, ce qui se passe, c'est que nous, on fait exactement la même chose avec Dieu. C'est que on arrive vers Dieu et quelque part, on dit à Dieu, traite-moi comme un de tes serviteurs. Utilise-moi. Sers-toi de moi. Et il n'y a pas de mal à ça. Je crois que Dieu veut nous utiliser. Mais les amis, il y a cette dimension, on est des outils dans sa main. Mais Dieu, il n'est pas mort pour toi pour une caisse à outils. Vous êtes là ? Mon amour, ils sont là. Regardez ce que le prochain texte dit, et je le termine avec ça. L'esprit qui vous a été donné, regardez ça, ce texte, juste sur celui-là après. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave ou en serviteur. Il ne vous ramène pas sous la crainte. Il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Il a fait de vous des fils et des filles adoptifs de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher papa. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit que oui, tu es enfant de Dieu. Et ça, les amis, il faut que ça descende dans le cœur. Ok, je vais le redire. Ça, c'est là, il faut que ça descende là. Il y a 30 cm, mais c'est le chemin le plus long du monde. Ça m'a pris des années avant de réaliser que j'étais aimé d'un père. Ce fils-là, il dit, je ne peux pas me comporter comme si j'étais un fils. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans un scénario, papa, utilise-toi de moi, sers-toi de moi, la seule relation qu'on a avec Dieu, c'est que c'est notre boss. Et nous, on est des serviteurs. Puis t'imagines, là-bas, dans la maison, le père, il a ses fils, mais là-bas, c'est privé. J'ai pas le droit d'y aller. Tu comprends ? Moi, je suis un serviteur. Et le problème des serviteurs, c'est que vous allez marcher à la méritocratie. Vous allez marcher parce que les gens vous apprécient. Vous allez marcher parce que les gens félicitent votre travail. Et ça, ça va être votre carburant. Et on va marcher là-dedans. Vous êtes avec moi ? Vous comprenez ? Et du coup, et les serviteurs, on marche beaucoup avec les titres, avec la posture, parce que ça nous permet de nous différencier par rapport à ceux qui sont moins élevés dans la maison. Alors que tout ce que Dieu veut, c'est que vous veniez à l'intérieur de la maison. Il veut vous prendre dans ses bras et il vous dit, ta place, tu es né pour être là contre mon cœur. Je ne cherche pas à ce que tu te rachètes. Je ne cherche pas à ce que tu échafaudes tes plans au rabais, tes constructions. Il dit, laisse ça tout côté, viens dans mes bras. Et peut-être là, on peut dire, non, mais moi, j'ai envie de te servir. Mais c'est comme si le père, il vient et il vous dit, mais j'ai déjà suffisamment des milliards d'anges à mon service, j'ai pas besoin d'un serviteur de plus, vous êtes là ? À quoi peut me servir un serviteur de plus dans ma maison ? Et oui, c'est vrai que Dieu s'est dépouillé, s'est fait serviteur, mais dans la volonté du Père. Et tu sais, il y a souvent cette pensée-là, elle est tellement profonde. Moi, quand je discute avec des gens, ils disent, oui, mais Dieu, il s'est fait serviteur. Et tu dis qu'on n'est plus des serviteurs, on est fils, mais Jésus s'est fait serviteur. Oui, c'est vrai. Mais de toute éternité, il était fils. Et il est devenu serviteur. Il a pris cette posture de se soumettre à la volonté du Père. Mais il était fils avant tout. Waouh ! C'est tellement profond. On est fils bien-aimé du Père. On est fils et fille du roi. Et quand vous êtes serviteur, votre carburant, c'est le mérite, la reconnaissance, la gratification. Un fils ne se préoccupe pas de ça. J'ai dit à ma fille, tu sais, t'es belle, je t'aime. Elle me fait, ça va, je le sais, tu me l'as déjà dit, c'est bon. Elle est sécure, elle sait qu'elle est aimée du Père, j'arrête pas de lui dire. Et un fils, il a des privilèges. Il a des privilèges. J'éduque en ce moment mes enfants à faire leur chambre. Je vais voir mon fils, il y a des Legos de partout. Je rentre, je lui dis, fils, ce serait bien que tu fasses ta chambre. Et il se lève et il me dit, papa, je suis un fils. Je dis, oui. Il me dit, je suis pas une femme de ménage. Il avait raison. Je lui dis, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et par contre, tu vas faire le ménage. C'est ta responsabilité. En fait, ce que je veux dire ici, regardez les amis. Quand tu es serviteur, tu demandes une récompense et tu demandes à être payé. La femme de ménage ne vient pas gratuitement. Vous me suivez ? Quand tu es fils de Dieu, la maison t'appartient. Et si tu n'as pas femme de ménage, il faut quand même que tu mettes la main à la pâte et que tu fasses ta chambre. Est-ce que vous me suivez ? Mais en fait, c'est vraiment cette dimension. On n'est pas des serviteurs, on est fils et filles du roi. La maison vous appartient. J'aimerais que vous fermiez les yeux et j'aimerais vous poser une question très simple. Dans ce chemin de l'amour du Père, vous en êtes où ? Est-ce que vous en êtes tout au début, vous ignoriez même que vous aviez un Père ? Ok, ben alors faites un premier pas. Vous avez un Père dans les cieux qui vous a voulu et qui vous a créé. Est-ce que vous êtes dans le deuxième pas qui est de dire « Il m'a créé, il avait une intention, il avait une volonté » ? Est-ce que vous connaissez cette intention, cette volonté qu'il a pour vous ? Et peu importe le stade où vous êtes, c'est ok. Mais il y a comme un chemin vers son cœur. Et je vais un petit peu plus loin. Dieu est le Père, Dieu est ton Père, ça te parle ou pas ? Puis il y a des gens qui vont me dire, bah oui, c'est mon Père, ok. Mais il est ton Père comment ? Est-ce que tu as une maison ? Et t'es où dans la maison ? Est-ce que tu es devant la porte ? Est-ce que tu as passé la porte de la maison de l'amour du Père ? Est-ce que tu as déjà visité ta chambre ? Où est-ce que tu en es dans l'amour du Père ? Jésus est venu pour nous amener vers le Père. Et encore une fois, c'est une invitation. C'est juste une proposition. Et vous pouvez toute votre vie chrétienne passer à côté de cette réalité-là, avec toutes les conséquences que sera pour lui et pour vous. Mais en tout cas, ici, dans cette église à Connect Grenoble, c'est un des piliers fondamentaux de notre doctrine, de notre cœur, parce que nous voulons grandir, ça a changé, ça a transformé nos vies, et on veut donner l'opportunité à d'autres personnes de rentrer, de célébrer, de faire la joie de la rencontre de l'amour du Père. Et peut-être il y a des gens, vous êtes ici, et vous avez votre robe qui est souillée par le passé, souillée par cette posture de vous venez là où vous vous êtes sali. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont ici et tu dis, mais moi, je n'ai jamais enlevé ma robe de serviteur. Je ne sais pas ce que c'est que de ne pas être serviteur parce que j'ai toujours servi. Et est-ce que tu accepterais que Dieu, le Père, vienne et qu'il te donne un nouvel habit ? Et est-ce que tu pourrais accepter de dire, t'enlèves ta robe de serviteur et tu lui laisses mettre et que tu lui laisses te mettre sur tes épaules une robe nouvelle de fils, de fille. Je vais vous inviter à vous lever. Et juste, on garde les yeux fermés. On a tellement été touchés par ce week-end de l'amour du Père que je ne pouvais pas passer à autre chose. Il y avait cette volonté de revenir là-dessus. Il y avait même, je me disais dans mon cœur, mais je n'ai pas prêché sur l'amour du Père. Et c'est comme si le Seigneur ait dit, continue, parle encore de mon cœur. »